Bonsoir et bienvenue dans cette émission Pré-COP 27 à Yangambi, dans la province de la Tchopo. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé s'est engagé à promouvoir une économie verte et résiliente à faible émission de carbone. Il a pris cet engagement à l'ouverture des travaux organisés en prélude de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP 27. Selon le Premier ministre, le gouvernement congolais se propose de gérer rationnellement et durablement ces importantes ressources naturelles afin de garantir l'équilibre écologique, le bien-être social, économique, culturel et environnemental de sa population. Le coordonnateur de la société civile de Yangambi espère pour sa part qu'après ces assises, des projets à impact visibles et palpables seront réalisés en faveur de la population qui vit autour de la réserve de Yangambi. Que pensez-vous de l'organisation de la pré-COP 27? Qu'est-ce que la RDC pourrait attendre de la COP 27? C'est l'objet de l'émission de ce soir et nous recevons professeur Joseph Longunza Malassi. Il est conseiller climat de la vice-première ministre et ministre de l'Environnement et Développement Durable. Bonsoir, monsieur le professeur Joseph Longunza Malassi. Voilà, il n'est pas encore là, il va nous rejoindre. René Ngongo, expert sur les questions environnementales et vice-président de l'ONG Organisation Concertée des écologistes et amis de la nature Océan en sigle et rapporteur de la Commission économique et sociale. Bonsoir, monsieur René Ngongo.
Bonsoir, cher ami.
Et Luc Loutala, président de l'ONG Espoir pour tous, ONG qui contribue au développement des villages, notamment en assurant les reboisements à Kasangulu dans la province du Congo central. Bonsoir, monsieur Luc Loutala.
Bonsoir, merci.
Bienvenue une fois de plus dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La RDC est la solution recherchée par le monde pour faire face au changement climatique grâce à ses ressources naturelles. Cette solution passe par les forêts, les minerais stratégiques et les eaux. C'est ce qu'a déclaré la vice-première ministre en charge de l'environnement et développement durable. Eve Bazaïba l'a dit au cours d'une conférence de presse tenue lundi 5 septembre en marge de l'ouverture officielle des travaux sur la pré-COP 27 qui se sont clôturés ce mercredi à Yangambi dans la province de la Tchopo. On écoute Eve Bazaïba au micro de Paul Matendo.
La réunion est concentrée sur le rôle des forêts du bassin du Congo et des autres bassins du monde face aux enjeux du climat. N'est-ce pas? Mais nous savons que la solution recherchée par le monde basée sur la nature pour faire face aux enjeux du climat, pour atteindre l'atténuation et nous adapter à la nouvelle donne du climat, cette solution passe d'abord par les forêts qui constituent la stratégie par excellence pour absorber les pollutions. Deuxièmement, nous avons les ressources en eau. Troisièmement, nous avons aussi les minerais stratégiques qui nous amènent à la transition écologique, notamment les coltans, les cobalts, les lithiums, etc. Par exemple, pour la fabrication des batteries qui soutiennent les véhicules électriques, donc des véhicules non polluants. Et le tout, dans l'ensemble, la RDC renferme cette solution basée sur la nature. C'est pourquoi nous parlons de la RDC comme étant un pays solution.
René Ngongo, vous êtes expert sur les questions environnementales et vice-président de l'ONG Organisation Concertée des écologistes et amis de la nature et océan en sigle et rapporteur de la Commission économique et sociale. Comment vous réagissez à cette initiative, la pré-COP 27 de Yangambi?
Je précise qu'il s'agit bien du Conseil, pas de la Commission, le Conseil économique et social. Et c'est à ce titre comme rapporteur du Conseil économique et social et environnementaliste que je participe avec beaucoup de plaisir à ce forum qui est une première d'une conférence scientifique en prélude à la COP 20, à la pré-COP 27 qui va se tenir à Kinshasa. Pour répondre à votre question, c'est d'abord quelque chose qui était inattendu il y a quelques années parce que nous étions en train de rêver un jour organiser une conférence de parties sur le climat. Et voilà que nous sommes sur la droite ligne avec l'organisation de la pré-COP dans quelques semaines à Kinshasa. Et pour la première fois, une conférence scientifique réunissant les experts des trois continents, des trois bassins, le bassin du Congo, le bassin de l'Amazonie, le bassin de l'Indonésie se mettent ensemble pour parler de l'avenir de l'humanité à travers la préservation des forêts et les rôles que ces forêts jouent pour atténuer le climat et répondre aux besoins de séquestration de carbone. Voilà, je crois que la VPM venait de lancer les grandes orientations. C'est pour nous une occasion de montrer à travers la recherche, et Yangambi offre cette opportunité parce que ce soit les autorités, les premiers ministres et la suite gouvernementale, tous les experts, nous avons eu l'occasion d'aller visiter cette tour à Flix qui capte les échanges entre notre forêt et l'atmosphère et qui montre que réellement nos forêts, les forêts du bassin du Congo, séquestrent plus de carbone que les forêts d'Amazonie. Ça, c'est vraiment une grande information qui a été partagée par les chercheurs du monde entier. Mais je dois vous dire que les échanges étaient aussi fructueux, des débats parfois assez houleux entre les experts. Mais je pense que vous avez suivi la déclaration qui est sortie de Yangambi 1, parce qu'après Yangambi, il y aura certainement d'autres initiatives pour pérenniser cette action qui vient de se passer en plein cœur de forêt.
René Ngongo ?
Oui, à
l'issue de ces échanges, quelles sont les résolutions et recommandations qui ont été votées par les participants ?
D'abord, les participants ont confirmé les rôles importants de forêts pour l'humanité. Et là, il y a pas mal, il y a des données, des réflexions qui ont été présentées. Mais aussi, au-delà des forêts, les rôles des tourbières dans la lutte contre le changement climatique ont été vraiment mis en évidence. L'agriculture durable, en fait, les scientifiques ont montré les problèmes, comment ils se présentent en termes de menaces sur la planète, des changements climatiques, mais aussi des solutions. Et parmi les solutions, ils ont épinglé les rôles des forêts et des tourbières, les rôles de la nécessité d'accès à l'énergie propre, mais aussi l'agriculture durable. Donc voilà autant de débats qui ont été, des échanges qui ont tourné autour des solutions. Et évidemment, une bonne partie des échanges a tourné autour de crédit carbone.
Voilà, forêt, Monsieur René Ngongo, oui, vous avez évoqué certains atouts, n'est-ce pas, que détient la RDC, notamment nos forêts, les tourbières. Mais entre-temps, le Premier ministre Samalou Kondé s'est engagé à promouvoir une économie verte et résiliente à faible émission de carbone lors de ses assises. Et à votre avis, comment la RDC peut-elle, n'est-ce pas, être le pays solution dans la préservation de l'environnement pendant qu'elle s'élance dans l'exploitation des ressources fossiles? Hein. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, le gouvernement congolais a mis en vente aux enchères, n'est-ce pas, 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers.
Effectivement, le gouvernement a lancé cet appel d'offres qui a suscité beaucoup de débats à travers le monde parce que, visiblement, cela entre en contradiction avec cette volonté, hein, plusieurs fois exprimée, encore rééditée ici à Yangambi, d'aller vers l'économie verte. Évidemment, le gouvernement est en train de vouloir promouvoir une exploitation pétrolière à faible impact. Cela nécessite des moyens. Et quand vous suivez l'argumentaire du gouvernement, pour faire face au défi du changement climatique, il faut des moyens pour préserver la forêt. Effectivement, il y a eu tellement de promesses pour apporter d'appui, d'aider le gouvernement à préserver ce capital naturel qui est notre forêt, qui est nos tourbières, mais aussi nos minéraux stratégiques. Mais visiblement, il y a beaucoup de retard dans la concrétisation de ces promesses. Et le gouvernement, faute de moyens, se tourne vers un raccourci qui est l'exploitation des des hydrocarbures à travers les 27 blocs qui ont été ciblés. Mais vous le savez aussi, parmi ces blocs, il y a des blocs qui chevauchent avec les aires protégées et cela apporte beaucoup d'inquiétude. C'est vrai que le gouvernement et même le chef de l'État l'a annoncé, ça va être une exploitation qui va tenir compte de la protection de l'environnement, mais connaissant les méfaits des énergies fossiles sur la biodiversité, sur l'environnement en général, les environnementalistes et beaucoup de partenaires sont inquiets par rapport à cette ressource qui cause beaucoup de dégâts dans la nature. Et le gouvernement tient à rassurer, donc nous voulons nous, comme environnementalistes, avoir plus d'assurance que les mesures adéquates seront prises et visiblement éviter les blocs qui fâchent, notamment les blocs en plein cœur de tourbières, les blocs qui chevauchent les aires protégées. Et sur les 27 blocs, je pense qu'il y a des blocs qui ne posent pas problème et le gouvernement aura tout intérêt à commencer par ces blocs qui posent moins de problèmes, mais aussi à assurer la mise en œuvre des mesures draconiennes pour éviter que la recherche des pétrodollars n'apporte plus de malheur qu'on connaît maintenant avec l'exploitation de nos forêts, mais aussi de nos minéraux.
Merci René Ngongo. Luc Loutala, président de l'ONG Espoir pour tous, ONG qui contribue au développement des villages, notamment en assurant les reboisements à Kasangulu de la province du Congo central. RDC Pays Solution, le Premier ministre s'engage à promouvoir une économie verte et résiliente à faible émission de carbone. Monsieur Luc Loutala, est-ce que la RDC est prête à respecter ses engagements?
D'abord, je crois que c'est une intention du Premier ministre, qui n'est pas étayée par un programme. C'est une expression de volonté, une expression d'ambition qui aurait pu mieux cadrer, à mon avis, en ce moment ici. On aurait assisté probablement, parce qu'il faut saluer quand même cet effort très diplomatique, que la RDC soit impliquée comme un des pays co-organisateurs de la conférence des parties 27. Alors, il faut savoir que la question climatique, elle est très très délicate depuis 29 ans. C'est depuis 29 ans l'accord des Rio en 1992, et puis la dernière, c'était à Glasgow l'année dernière en 2021. Et on assiste à ce que en fait, le monde entier est en train de patiner sur les quatre piliers de ce qu'on appelle les conférences des parties sur le défi climatique, à savoir le défi d'atténuation, qui consiste à ramener le réchauffement en dessous de 2% Celsius, la température à 2% Celsius, avec des engagements avec objectifs plus ou moins à 1,5 degrés Celsius. Et puis le deuxième pilier, c'est celui de l'adaptation, ça veut dire qu'il consiste à donner plus de place aux communautés, à aider les communautés les plus vulnérables. Et finalement, le gros problème, des gros problèmes, qui est le problème de financement, on le sait, les 100 milliards de dollars promis depuis 29 ans à être débloqués chaque année ne sont toujours pas arrivés, et cette divergence entre les pays développés et les pays en voie de développement. Et puis finalement, il y a toujours ces questions des négociations, la collaboration, les négociations qui sont consensuelles au sein de l'ONU, qui ont fait que en 29 ans, on a patiné. Et donc là, la RDC avec l'Égypte, et il faut saluer ça, l'Afrique organise sa première conférence de parties avec ces deux grands pays, l'Égypte et le Congo. Au niveau de la RDC, je place la déclaration du Premier ministre dans le cadre d'une ambition qui aurait pu mieux se gérer. Alors, pourquoi qui aurait pu mieux se gérer? Parce que, d'abord, là, nous venons d'assister à la première étape de préparatif, une énorme étape au niveau de la RDC. Les 350 chercheurs du monde entier se sont réunis à Yangambi, il faut saluer ça. Et ensuite, on observe un tout petit peu, je pense, René Ngongo venait de le dire déjà, cette dichotomie entre la volonté d'être un pays véritablement solution et en même temps cette communication un tout petit peu cafouillée sur les blocs pétroliers. La déclaration du Premier ministre, hein, qui est très très belle en elle-même, elle apparaît un tout petit peu poétique, excusez-moi le terme, elle apparaît poétique, sur le fait que, en sus, la RDC aurait vraiment pu saisir cette opportunité pour présenter une véritable stratégie, un véritable plan de comment elle compte devenir un pays qui s'approprie, qui maîtrise ce qu'on appelle l'économie verte ou l'économie climatique.
Voilà, vous avez évoqué un certain nombre de défis, notamment les défis d'atténuation, les défis d'adaptation. Et vous pensez que ces défis pourraient être relevés à court, à moyen ou à long terme?
Mon point de vue est que la conférence des parties est devenue une véritable pièce de théâtre annuelle, quoi. Hein, et il faut qu'on le dise à bras le cœur. On a cru, avec tout ce que la France, quand la France a organisé la conférence de parties, on a vu se déployer les différents présidents français pour arriver à convaincre les États à signer l'accord de Paris, qui était une véritable valeur ajoutée, afin de booster la mise en œuvre finalement de ces quatre défis qui sont là. Et donc, on voit qu'on patine. Le financement du climat pose problème. René Ngongo est revenu là-dessus. 100 milliards de dollars, ça ne circule toujours pas. Ce qui fait, entre autres, que la RDC est en droit de se dire, mais attends, finalement, nous, on contribue en compensation sur les émissions de carbone au niveau mondial. Et puis, finalement, on ne gagne rien du tout. Vous avez vu le ridicule montant qui a été attribué à Glasgow. C'est à peine 500 millions qui sont arrivés. Et finalement, on ne voit pas quel va être réellement l'impact par rapport aux défis que nous avons. Et donc, pour le dire, si on était à bord d'un avion, à bord du cockpit, et qu'on regarde à l'horizon, on dirait vraiment il n'y a pas d'horizon. On ne voit pas où on va atterrir avec ça. Et à très court terme, je ne vois pas réellement qu'on est en train d'aller vers un consensus, parce que il faut le dire, le plus gros piège reste sur le jeu de négociation entre la primauté, entre l'adaptation, l'atténuation, l'engagement des parties, le financement, et sur les quatre, on n'a pas beaucoup avancé. Donc, mon point de vue en tant que, à la fois comme observateur et comme acteur impliqué sur ces questions, reste véritablement que les conférences de parties, et je pense, je ne vois pas beaucoup qu'est-ce que la prochaine conférence de parties va apporter de nouveau. Les conférences des parties restent à ce jour une petite distraction hautement financée par les États pour essayer d'endormir les autres et pour essayer d'embobiner les autres, sans véritablement un calendrier réel des engagements pour qu'on sorte de ce trou noir dans lequel nous sommes en train de tomber.
Oui, on doit voir le professeur Joseph Longunza Malassi, qui est conseiller climat de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, mais il ne décroche pas son téléphone. Là où il est, s'il nous entend, qu'il nous aide, n'est-ce pas, à les joindre. Monsieur Luc Lutala, quel discours la RDC devrait-elle tenir, n'est-ce pas, à la COP27? Parce que Yangambi, c'est pour préparer, n'est-ce pas, la COP27 en Égypte. Quel est le langage que cette fois-ci la RDC devrait tenir pour faire entendre davantage sa voix, faire la différence, n'est-ce pas, avec les précédentes COP?
Alors, Yangambi, c'est la partie scientifique. Et la partie scientifique, elle était basée sur deux défis majeurs. Évaluer quel était l'apport du bassin du Congo et des autres bassins de l'Afrique, des autres bassins, sur la contribution au climat et dégager les perspectives. Mais ça, c'est les scientifiques. Et maintenant, du 3 au 5 octobre, il va avoir la partie politique. Alors, au niveau de la partie politique, le langage de la RDC ne pourra être fort que si La RDC arrive entre-temps à avoir un véritable plan, une véritable stratégie. Et je crois Madame F. Bazaïb a essayé de demander aux scientifiques d'évaluer d'évaluer le coût de ce que nous avions comme ressources et biodiversité. Ça va être très difficile, mais il fallait plutôt avoir une véritable évaluation de la RDC, ce qu'elle attend en contrepartie pour arriver à financer son développement tout en préservant les ressources naturelles qui contribuent au climat. Et sur cette question pragmatique, à mon avis, c'est la seule chose sur laquelle on attend la RDC, parce qu'on connaît que les règles existent déjà. Bien sûr, on va aller, la RDC occupe la première place plus que l'Amazonie, et ça nous fait très bon, c'est prestigieux, nous sommes totalement d'accord avec ça, ça flatte notre ego. Mais on a vu à Glasgow, nous sommes en train peut-être de vouloir corriger l'erreur de Glasgow. À Glasgow, on est allé avec le discours que nous sommes un pays solution, mais nous n'avions pas en face de nous une position de gens qui négocient, en disant, mais écoutez, notre besoin RDC, pour que nous puissions tirer parti de la compensation de ce que nous donnons à l'humanité, à la planète, voilà à quoi s'évalue notre besoin des financements du développement et de ce que le Premier ministre a appelé le plan de développement de l'économie verte.
Et donc il faut tirer les leçons,
Nous partons avec une grosse faiblesse, ça veut dire nous allons encore avec des discours, alors que nous avons vraiment là l'opportunité d'aller avec une stratégie, avec un plan clair, où on dit, ok, la RDC est prête à contribuer, ok, mais maintenant, qu'est-ce que la RDC va gagner? C'est que la RDC gagne n'est pas clair. Et ce que la RDC attend n'est pas clair.
En d'autres termes, tirer les leçons de Glasgow.
Absolument, pas seulement les leçons du Glasgow, mais les leçons de la totalité. Excusez-moi de dire que moi j'aurais cru que le Premier ministre arrivait pour dire, mais écoutez, moi, nous la RDC, nous avons un plan qui s'évalue à autant et nous sommes en train de voir comment est-ce que ce que nous avons va contribuer. Mais lorsque le Premier ministre arrive avec un discours totalement poétique, excusez-moi, je suis resté un tout petit peu sur ma soif et je me suis demandé, mais bon, qu'est-ce que nous faisons de cette opportunité qui nous est offerte? Parce qu'après tout, pour que cette opportunité revienne, ça va être très difficile. Là, nous sommes vraiment en pole position, ça veut dire en première position, pour essayer de poser les problèmes de la RDC avec une pertinence comme on l'a jamais fait avant. Il faut saluer les efforts du chef de l'État qui a réussi à arracher que nous soyons co-organisateurs de la COP, mais bon, il faut que l'on fasse à ce que cela apporte quelque chose. Comme
merci, nous allons donner maintenant la place, n'est-ce pas, aux auditeurs qui sont en train d'appeler pour donner leur point de vue par rapport à ces sujets. René Ngongo, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kolwezi dans les Lualaba.
Patrick Mbouli Kassama depuis Kolwezi dans la province du Lualaba. Nous saluons l'engagement du Premier ministre à promouvoir une économie verte et résiliente à faible émission de carbone. Je crois que cet engagement consiste à rassurer les partenaires de la RDC en matière environnementale qui du reste font des promesses sans réalisation. Et la RDC en particulier, et l'Afrique en général, ne bénéficient grand-chose sur les fonds destinés à la conservation de l'environnement. Et comment voulez-vous que la RDC attende grand-chose de la COP27? Je pense que l'organisation de la pré-COP27 rentre dans ce cadre de plusieurs autres travaux qui ont englouti de l'argent du trésor public sans en remporter.
René Ngongo, votre réaction?
Merci pour cet auditeur qui vient de faire une réaction, mais qui rejoint un peu mon co-débatteur de ce soir que j'ai salué en passant.
René Ngongo, est-ce qu'il y a possibilité de bouger un peu? On a du mal à vous comprendre, à vous entendre.
Je disais tout à l'heure que je remercie l'auditeur, mais aussi mon co-débatteur, pour leur point de vue tout à fait pertinent. Mais ils sont en train d'anticiper. Nous ne sommes pas encore à la pré-COP ni à la COP, là où se passent les négociations. Donc il ne fallait pas attendre du Premier ministre ou de la VPM de commencer à négocier avec les scientifiques. Le ministre s'est exprimé, il a donné un discours d'orientation pour montrer que la République démocratique du Congo est dans les bonnes dispositions. La réunion des scientifiques est en train de fourni à travers la déclaration de ce que nous allons désormais appeler Yangambi 2, Yangambi 1, par rapport au rôle de la République démocratique du Congo dans la lutte contre les changements climatiques, ce sont ces arguments qui vont être capitalisés. Et la VPM tout à l'heure venait de confirmer que cette déclaration sera également présentée lors de la pré-COP ministérielle à Kinshasa du 3 au 5 octobre. Donc tous ces éléments vont être mis sur la table.
Monsieur René Ngongo, nous avons toujours sollicité, n'est-ce pas, des fonds de la part de la communauté internationale pour nous permettre, n'est-ce pas, de préserver notre forêt. Mais on nous a toujours reproché le fait qu'on on ne dit pas, n'est-ce pas, à nos partenaires qu'est-ce qu'on ferait avec ces fonds qu'ils vont nous donner. On n'arrive pas à présenter les projets bancables. Vous avez suivi M. Luc Lutala qui a dit que ce qui est fondamental, c'est de présenter un véritable plan, n'est-ce pas, pour montrer que la RDC est pays solution par rapport à cette transition écologique. Est-ce que vous avez évoqué ce genre de questions lors de ces assises? Monsieur René Ngongo, est-ce que vous êtes là? Voilà, apparemment, il est parti. Monsieur Luc Lutala, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bukavu, au Sud Kivu, c'est Robert Baomé.
Robert Baomé de Bukavu, au Sud Kivu. L'organisation de la pré-COP 27 est à saluer dans la mesure où elle puisse permettre à la RDC de bien baliser le chemin pour la COP 27. De cette dernière, la RDC peut s'attendre à de bonnes choses si et seulement si elle y part prochainement en position de force. Sinon, la COP 27 pour la RDC risquerait de ne pas être différente des COP antérieures où elle n'a rien gagné alors qu'elle détient des réserves importantes de ressources naturelles qui profitent beaucoup au reste du monde.
Oui, M. Luc Lutala, vous l'avez déjà relevé.
Merci beaucoup, M. Robert Baou. Je crois que ce qu'il il enfonce le clou qu'on était déjà en train d'enfoncer. Mais il faut dire que il faut regarder aussi l'organisation de la COP sous les regards des relations internationales. Et donc, il y a toujours un intérêt politique derrière. Et là, il y a plusieurs intérêts. Dans l'immédiat, nous avons un intérêt qui est celui de l'intérêt de prestige. Ça veut dire que la RDC, vous avez vu, nous avons reçu 350 chercheurs du monde entier à Yangambi. Donc, c'est le pays. On a rénové Yangambi. Il y a tous ces travaux. Et au mois d'octobre, on va recevoir les différents ministres des Affaires étrangères, je crois, ou les différents ministres de l'Environnement du monde entier, qui vont se réunir de 3 au 5 au Palais du Peuple. Donc, il y a d'abord ce qui est gagné et qui est indiscutable, c'est l'intérêt de prestige. La RDC est à l'avant-plan, la RDC est visible, et la RDC peut vraiment, sera à l'avant-plan de tous les caméras. Oui. Maintenant, on reste tout à fait d'accord sur le fait que indépendamment de ce que mon co-débatteur, que j'apprécie particulièrement, René Ngongo, était en train de dire, ce qu'on va gagner n'est pas très garanti, parce qu'il faut se rappeler que la COP, c'est en novembre. La COP n'est pas dans une année, c'est en novembre. Et si l'on voit, par exemple, comment l'accord de Paris avait été préparé, on va voir la dynamique française, elle était complètement différente de la dynamique congolaise. C'est-à-dire, au mois de mars-avril, les instances, les politiques françaises avaient déjà fait des consultations au niveau de la France, au niveau du monde entier, au niveau des continents, et il y avait un document qu'elles partageaient avec les différentes parties prenantes, que ce soit en France, que ce soit dans le monde. Alors, ce que René Ngongo dit, ça veut dire qu'effectivement, on va avoir la réunion interministérielle qui vient. Mais il faut se dire que la question climatique, elle touche l'atténuation, l'adaptation, ce sont les communautés. Il fallait qu'en ce moment, à RDC, les communautés soient impliquées, qu'il y ait des consultations, qu'il y ait le point de vue de communauté pour élaborer ce plan. Ça ne devait pas être un plan qui va être élaboré dans les cabinets ministériels. Non, mais ça doit être un véritable plan national sur lequel il y a la participation, l'écoute des différentes couches de telle sorte que l'État, les autorités congolaises parlent au nom de la population congolaise, au nom de l'État, avec force, parce que cela a été fait. Et donc, il faut dire qu'il y a un vide en termes d'approche, en termes de livrables, parce que même si on va aller négocier, on a un plan, ce plan devait déjà circuler maintenant, devait circuler, la société civile, les différentes parties prenantes devaient apporter leur contribution. Évidemment, il y a maintenant les scientifiques qui viennent des données, et tout ce que les scientifiques ont donné va passer maintenant à la casserole des politiques. Ce que les scientifiques ont donné, les politiciens vont le mettre à la cuisine et essayer de le cuisiner à leur langage, hein, pour en faire ce qu'ils veulent. Et vous allez voir qu'il y a toujours cette distance entre ce que les scientifiques proposent et ce que les politiques disent.
Merci.
Et là, c'est le véritable enjeu. C'est le véritable enjeu, c'est qu'il y a quoi le niveau d'incertitude par rapport à notre propre démarche.
Merci.
Je pense que ce que nous faisons est bon, mais on peut mieux faire. On peut mieux faire.
Merci, Monsieur Luc Loutala. On me signale que le professeur Joseph Longunza est là. Professeur Joseph Longunza, Malassi, bonsoir.
Bonsoir, Monsieur le journaliste.
Oui, je rappelle que vous êtes conseiller climat de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable. Nous avons déjà relevé quelques recommandations ici avec les intervenants, mais on se rappelle que lors de cette conférence de Yangambi, la vice-première ministre en charge de l'environnement et développement durable a affirmé que la RDC est la solution recherchée par le monde pour faire face au changement climatique grâce à ses ressources naturelles. Mais ce qu'on voudrait savoir, c'est comment la RDC se prépare pour contribuer effectivement à cette transition écologique, professeur Joseph Longunza Malassi.
Merci pour la question. Comment la RDC se prépare? Tout commence par la volonté politique. Parce que les scientifiques peuvent travailler, la société civile peut mener des actions, c'est vrai, et nous apprécions. Mais si l'attelage n'est pas porté au niveau politique, rien ne va se passer, rien ne va suivre. Donc, ce qui se passe pour le moment au ministère de l'Environnement et du Développement durable sous le leadership de son Excellence Madame Eve Bazaïba, c'est toute une révolution. Et les observateurs avertis peuvent le dire, l'apprécier et le soutenir. Parce que depuis qu'elle est arrivée à la tête de ce ministère et qu'elle a cerné la problématique de l'environnement et surtout du changement climatique, que ce soit en RDC ou dans le bassin du Congo et les autres bassins tropicaux de la planète, elle en a fait, si vous le voulez bien, son leitmotiv. Donc, ce qui se fait, c'est une préparation au niveau politique. Ce qui se fait, c'est une remise en ordre de la République démocratique du Congo pour les négociations, tant au niveau multilatéraux qu'au niveau bilatéraux. Ce qui se fait, c'est la remise de la RDC à sa place, à sa position naturelle à travers des négociations de très haut niveau que son Excellence Madame la Vice-Première Ministre a eu à mener pendant la première année de son mandat à la tête de son mandat à la tête de ce ministère. Et c'est ce qu'il fallait. Généralement, on n'a pas l'impression, ou généralement on a l'impression que quelque chose n'est pas en train d'être fait, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas l'information qu'il faut. Beaucoup est en train de se faire. Par exemple, lorsqu'elle est arrivée, il y a eu l'adoption de ce que vous appelez, ou de ce que nous appelons la contribution déterminée au niveau national de la RDC conformément à l'accord de Paris de 2015, où la RDC s'est engagée à pouvoir réduire de ses émissions les gaz à effet de serre d'environ 21% par rapport au niveau de référence des années, si je ne me trompe pas, l'année 2011 ou l'année 2018, je vais vérifier. Et donc, ça c'est déjà un point fort
justement,
au niveau
professeur,
du régime climatique international.
Oui, professeur, justement par rapport à cet aspect, on sait que le Premier ministre s'est engagé à promouvoir une économie verte et résiliente à faible émission de carbone. Ce qu'on voudrait, n'est-ce pas, savoir, c'est concrètement, ça pourra se passer comment au moment où on sait que la RDC vient d'opter pour l'exploitation des énergies fossiles en mettant en vente 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers.
J'aimerais tout d'abord corriger que la RDC n'a pas mis en vente des blocs pétroliers. ce sera un régime de concession. La RDC ne met pas en vente les blocs. Les blocs vont être exploités.
Voilà. Mais même si la RDC, professeur, sera... vous venez de préciser, la RDC n'a pas mis en vente, mais la RDC, n'est-ce pas, va promouvoir l'exploitation des énergies fossiles. Comment on peut promouvoir l'exploitation des énergies fossiles pendant qu'on se présente comme étant pays solution dans la transition écologique?
Pays solution ne veut pas dire qu'on n'exploite pas nos ressources, monsieur le journaliste. Pays solution, ça veut dire que nous sommes conscients de nos ressources et du rôle qu'ils jouent au niveau international pour le changement climatique. Nous nous engageons à pouvoir améliorer la gouvernance de ces ressources, la protection des ressources forestières et tout. Et nous réclamons en tant que pays des compensations équitables par rapport aux services que nos forêts rendent. Comment voulez-vous et comment comprenez-vous, monsieur le journaliste, que nous sommes dans un monde où 20 pays sont pollueurs, sont responsables à eux seuls de 80% des émissions mondiales de gaz à effet de serre? Toute l'Afrique, y compris la RDC, nous ne sommes responsables que de moins de 4% des émissions. Et les pays intermédiaires sont responsables d'environ 16%. Donc, comment voulez-vous et comment ne pouvez-vous pas comprendre que le problème est ailleurs? Le problème à poser, c'est à ces pays qui polluent, qui ont pollué et qui ont malheureusement ou heureusement, involontairement ou volontairement, causé le changement climatique. C'est à ces pays de pouvoir faire des gestes forts. Pourquoi ne ferment-ils pas certaines de leurs raffineries de pétrole pour nous permettre à nous aussi d'ouvrir? S'ils en ferment 10, nous pouvons en ouvrir 10. C'est un équilibre au niveau climatique si on doit parler en ces termes-là.
Merci, professeur. Merci.
Pourquoi ils ne ferment pas, mais à l'opposé, je vais parler, à l'opposé, ils nous empêchent à nous de pouvoir exploiter ces pétroles pour subvenir à nos besoins, alors que nos populations ont besoin de ces ressources pour réduire l'extrême pauvreté. Aujourd'hui, à Kinshasa ou en RDC, on ne peut plus se déplacer en avion parce qu'il n'y a pas de kérosène. Vous trouvez ça vraiment normal, monsieur? Pendant que ces pays qui ont du pétrole, qui nous demandent de ne pas le faire, aucun de ces pays ne nous a envoyé une goutte de kérosène pour nous dire « Vous êtes un pays qui protège les ressources, qui lutte contre le changement climatique. Nous vous faisons cette faveur. N'exploitez pas, mais nous suppléons à ce que vous auriez dû exploiter. »
Merci, professeur.
C'est un problème au niveau international et c'est le moment de pouvoir le soulever.
Merci.
Il y a injustice au niveau international.
Voilà.
C'est inacceptable.
Oui, oui. Il y a un auditeur qui est en train de faire une réflexion à laquelle vous allez réagir, professeur Joseph Longunza. C'est l'auditeur Fikiri de Bukavu.
Fikiri Chumba, je vous appelle depuis Bukavu dans la province du Sud Kivu. L'engagement pris par le premier ministre congolais Jean Malukunde dans la province de la Tchopo, c'est déjà entendu. Nous n'avons pas besoin de discours, mais de faits concrets et palpables. Comme la proposition du coordonnateur de la société civile de Yangambi, qui propose des projets à impact visible et palpable en faveur de la population qui vit autour de la réserve de Yangambi. Tant qu'il n'y aura pas une bonne politique à l'interne sur la sauvegarde de nos forêts et une bonne politique de suivi auprès des partenaires, les COP resteront un non-événement pour notre pays, RDC. Notre pays étant un acteur, si pas principal, elle peut être secondaire en ce qui concerne l'environnement mondial. Les pays pollueurs nous doivent beaucoup, mais étant donné qu'on n'a pas une bonne politique, on y va dans de tels forums en tourisme, voire même à genoux. Pourtant, on devait être les premiers bénéficiaires des retombées de telles conférences.
Réaction, professeur Joseph Longunza Malassi.
Oui, je suis partiellement d'accord avec cet auditeur, mais il faut qu'il puisse relativiser et bien situer son analyse dans le temps. Depuis l'arrivée de son Excellence Eve Bazaïb à la tête du ministère de l'Environnement et du Développement Durable en RDC, les choses sont en train de bouger. La RDC, pays solution, ça c'est un résultat que nous avons ramené. Aujourd'hui, le monde entier en parle. Ça n'a pas existé il y a 3 ans, il y a 2 ans. Donc c'est venu avec un dynamisme. Donner à ce dynamisme le temps de s'implanter. Et dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, nous allons faire le bilan. On y va, on ne va pas dans les COP aujourd'hui comme on y allait il y a 2, il y a 3 ans. Nous sommes allés à Glasgow, la RDC s'est fait entendre et a fait entendre sa voix. Nous sommes en train de nous préparer à aller en Égypte, à Sharm el-Cheikh. Nous ferons plus que ce que nous avons fait à Glasgow avec la déclaration de Yangambi.
et la pré-COP organisée en République démocratique du Congo, ce que vous n'avez jamais vu avant. C'est un dynamisme que la RDC aujourd'hui est en train d'imprimer et il faut le reconnaître. Moi, ce que je regrette souvent dans certaines personnes qui font des analyses, c'est la capacité à ignorer ce qui se fait. Et ça, c'est pas normal. Il faut apprécier les efforts en cours pour pouvoir dire voilà ce qui est en train d'être fait. Nous sommes au courant, nous apprécions, mais voilà ce qui peut encore être fait. Et là, tout acteur serait encouragé. Mais dire qu'on y va en tourisme, monsieur, on n'est pas allé en tourisme à Glasgow, on est allé en travailleur, et la VPM, sous le leadership du président de la République lui-même, qui était à Glasgow, a travaillé pour récupérer le leadership environnemental de la RDC. Vous
Merci.
Pensez que réunir plus de 26 pays de tous les continents du monde à Yangambi, qui est une forêt perdue, un coin qui est en ruine, les amener ici afin de ressusciter Yangambi, monsieur, vous croyez que c'était un don que quelqu'un nous a fait?
Merci, professeur.
C'est le combat de négociations âpres que
on a compris.
C'est ça qu'il faut le reconnaître.
Oui, on a compris. Il y a des efforts qui ont été fournis. Vous avez raison. Mais malheureusement, vous êtes intervenu en retard. Nous sommes à la fin de l'émission. Mais professeur, qu'est-ce que la RDC peut attendre de la COP27 en Égypte, hein? On nous a toujours reproché le fait de solliciter des fonds pour préserver, n'est-ce pas, nos forêts, mais qu'on ne présente pas des projets bancables. Est-ce que cette fois-ci, en allant en Égypte, nous allons nous amener avec des projets bancables, professeur Joseph Longunza? Ça sera sous votre conclusion parce que nous sommes à la fin de l'émission.
Je vais retourner la question, monsieur le journaliste. Entre nous, ayons un peu les deux pieds sur terre. Est-ce que la RDC a quelque chose, a une main à tendre, a quelque chose à demander à un pays X, Y, Z? Je ne vais pas citer les pays pour ne pas créer des incidents. Nous avons tout dans ces pays, il faut tout simplement ouvrir les yeux et il faut donner à ces pays la chance de renaître.
Merci.
Nous avons les ressources dont eux, ils ont besoin. Mais ils trouvent aberrant que nous puissions aller chez eux pour leur demander à nous aider. Ça dénote d'une insuffisance social qui est anormal.
Oui, nous demandons, professeur, nous demandons, évidemment, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, nous demandons, mais est-ce que nous présentons des projets? Parce que il faut, c'est bien de demander, mais il faut aussi avoir des arguments, n'est-ce pas, pour expliquer comment on compte gérer.
La déclaration de Yangambi, c'est plus qu'un argument, parce que les problèmes que connaissent nos bassins, les bassins du Congo, les bassins de l'Amazonie, les bassins de l'Orient, du Mékong et de l'Indonésie ont été concentrés dans une déclaration qui a été rendue publique aujourd'hui et qui sera portée au niveau ministériel.
Merci, professeur.
On n'y va pas comme ça.
Merci, on a compris.
En ordre dispersé. On y va de manière méticuleuse, de manière stratégique, et c'est ça la stratégie que la VPM Mbazaï va être en train de construire sous la vision du chef de l'État.
On a compris, on est à la fin de l'émission, monsieur.
La RDC est en train de récupérer son leadership environnemental. Vous pouvez le constater, vous devez le soutenir.
On a compris, professeur. Monsieur René Ngongo, un mot, hein, n'est-ce pas, en guise de conclusion.
Je pense que je voudrais un peu corriger l'image que notre ami Loutala est en train de présenter, que nous n'avons pas de stratégie. Dans termes de changement climatique, il y a deux stratégies, l'atténuation. Et là, le professeur Malassi vient de parler de notre contribution déterminée au niveau national qui a été réalisée sur base de consultations sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Plusieurs acteurs ont donné les orientations.
Oui, on a compris, mais malheureusement, on n'a plus assez de temps, malheureusement. Monsieur Luc Loutala, aussi, votre mot de la fin.
Ben, moi, je suis d'accord qu'il y a des choses qui se font, et j'insiste, nous pouvons mieux faire. Hein. Il faut que nous gardions la conscience que nous pouvons mieux faire, et j'espère que dans les travaux qui se font, nous allons de toutes parts avoir conscience que c'est une opportunité qui ne reviendra pas d'ici là, et que nous devons faire le maximum pour la capitaliser.
Merci, professeur Joseph Longunza Malassi, monsieur Renan Ngongo et monsieur Luc Loutala d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci aussi à Jean-Noël Mokondo qui était à la technique et à Kelly Nkoute et Dona Madimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision de Martin Sabou-Jangwe, à la présentation Guy Maté. Merci aussi à vous de nous avoir suivis et bonne suite au programme sur Radio Capi.